Bonjour et bienvenue, merci d'écouter le Grand Face-à-Face de France Inter en direct jusqu'à 13h, le Grand Face-à-Face avec mes camarades du samedi, la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Natacha. Et une émission évidemment très largement consacrée aujourd'hui à l'attentat islamiste d'hier à Conflans-Sainte-Honorine. Vous l'entendiez à l'instant dans le journal d'Anaïs. L'Élysée annonçait ce matin qu'un hommage national sera rendu à l'enseignant décapité après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Et puis dans un deuxième temps de l'émission, et alors que le couvre-feu entre aujourd'hui en vigueur à Paris et dans les grandes métropoles du pays, réflexion autour des mesures pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie de Covid. Rendez-vous tout à l'heure avec Emmanuel Hirsch, il est professeur d'éthique médicale et il dirige un ouvrage collectif Pandémie 2020. Emmanuel Hirsch qui nous rejoindra dans une trentaine de minutes. Mais pour commencer, évidemment, c'était hier soir à Conflans-Sainte-Honorine. Le président de la République s'exprimait solennellement, la voix pleine d'émotion.
Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste, islamiste, caractérisé. Ce soir, je veux, avant toute chose, avoir une pensée pour l'ensemble de ses proches, sa famille. Avoir une pensée pour ses collègues. Ici au collège. Mais plus largement, je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier qui est le plus beau qui soit, faire des citoyens libres. Mais je veux dire ce soir de manière très claire. Ils ne passeront pas. Nos policiers, nos gendarmes, l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, nos forces de renseignement. Mais au-delà de cela, toutes celles et ceux qui tiennent la République et à leur côté magistrats, élus, enseignants, tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas.
Ils ne passeront pas, donc, disait le président de la République, et nous sommes encore sous le choc, en pleine émotion et au-delà de la sidération, Natacha. Que dit cet attentat islamiste commis hier pour vous ?
Alors, c'est vrai qu'il y a une émotion absolument immense et nous avons tous une pensée pour la famille de ce professeur, pour ses collègues et pour l'ensemble des professeurs, en effet, parce que ça va avoir des conséquences absolument terrifiantes sur le corps enseignant. Mais je crois que notre rôle à nous, c'est justement d'essayer de nous extraire de l'émotion et de regarder point par point le déroulé de cette histoire, avec aussi les zones d'ombre que l'enquête sera chargée d'éclaircir. Parce que oui, la zone d'ombre principale, là-dedans, elle est entre, d'un côté, donc, ce processus, hélas, on ne peut plus classique, d'un professeur qui fait son travail et qui, ensuite, est traîné dans le bout et mis en cause par des groupes de pression qui utilisent tous les moyens de la modernité, c'est-à-dire notre état de droit, la justice, les réseaux sociaux. Et donc, la question, c'est de savoir comment on passe de cela, qui est hélas classique, à ce jeune homme dont pour l'instant on ne sait pas grand-chose, visiblement né à Moscou en 2002, et qui,
âgé de 18 ans,
massacre ce professeur. Voilà, ce massacre-là, comment on en arrive là, c'est la question des enquêteurs. Mais avant cela, il y a justement tout ce qui permet d'en arriver là, c'est-à-dire justement les pressions, la solitude aussi de cet enseignant qui faisait son travail et qui le faisait intelligemment, puisque visiblement, il a même pris soin de ne pas choquer, de prévenir que un élément qu'il allait montrer pouvait choquer. C'est-à-dire que c'était un homme raisonnable, responsable. Et je pense que c'est tout le reste de la machine qui défaille, et qui défaille depuis des années. Symboliquement, vous savez, 2002, année de naissance de cet assassin, c'est l'année de publication des Territoires perdus de la République. Un livre qui alertait sur ce genre de phénomène, qui, et les auteurs de ce livre ont été traînés dans la boue, traités de racistes, ils montaient en épingle des faits qui n'avaient aucune importance. C'était il y a 18 ans, donc le terrain, on l'a perdu depuis 18 ans, c'est tout ça qu'il va falloir regarder en face et le plus posément possible pour justement éviter de sombrer dans l'hystérie, dans les excès, dans le drame. Et parce que quand le président dit il faut faire bloc, le problème est que justement pour l'instant nous ne faisons pas bloc et que la question c'est de savoir comment on fait bloc tous ensemble. Sans renoncer à ce qui fait l'identité de la République française.
Et on va en parler justement évidemment Natacha, et puisque vous parliez de ce livre Les territoires perdus de la République, on entendait ce matin à l'antenne de France Inter la colère de Yanis Roder qui est historien lui-même, qui est professeur d'histoire géographie et qui avait participé à cet ouvrage collectif, et il disait dans la matinale que cela faisait 20 ans qu'il tirait le signal d'alarme, il disait donc ça colère. Gilles Finkelstein.
Oui, on a entendu l'émotion du président de la République, qui je crois est l'émotion de toute la nation, et on est tous inondés de sentiments et un peu vides de mots. C'est difficile de mettre des mots, de mettre les bons mots sur les sentiments qu'on éprouve. Entre Yanis Roder parlait de colère, entre affliction et colère. Et évidemment, il faut être prudent parce que il manque encore des informations. On a des informations, mais il en manque encore. Le procureur tiendra une conférence de presse tout à l'heure.
Oui.
Ce que l'on sait, malgré tout, c'est qu'un enseignant d'histoire-géographie a été assassiné, a été même décapité par un terroriste islamiste après avoir montré des caricatures de Mahomet dans un cours consacré à la liberté d'expression.
Et après avoir laissé la liberté aux élèves qui auraient pu se sentir choqués de quitter la salle s'ils ne voulaient pas voir ces caricatures-là.
Oui, et le simple fait d'énoncer ce que je viens d'énoncer montre l'ampleur de ce qui s'est passé. Et je crois que si cet événement a un tel écho, c'est parce qu'il s'agit de la figure du professeur et parce qu'il s'agit de l'école. Et que l'école doit être le lieu dans lequel des enfants, des adolescents deviennent non seulement des adultes mais des citoyens. Et ils le font pas seulement parce que c'est un lieu dans lequel on accumule des savoirs, parce que son regard au monde n'est pas le même après que l'on sache lire, après que l'on apprenne une langue étrangère, après que l'on comprenne ce qu'est une expérience scientifique. Plus profondément, on devient un adulte et on devient un citoyen parce que on apprend à se décentrer. On apprend à ne pas regarder le monde seulement par rapport à soi, mais avec les yeux des autres.
Oui.
On essaye d'apaiser ses affects et d'accéder à la raison, de pas seulement avoir des réponses, mais de se poser des questions. C'est ça l'école. C'est ça qui fait que on devient des individus libres et des citoyens actifs. Et c'est ça qui a été touché, et je crois que c'est pour ça que l'émotion est aussi forte.
Natacha.
Oui, je rejoins totalement ce que vient de dire Gilles sur cette définition de l'école. Et ce fait monstrueux nous rappelle une chose, c'est que cette conception de l'école, c'est la conception qu'en a bâtie la République française. Et en fait, ce que nous rappelle ce fait, cette horreur, c'est que la France est une espèce d'îlot dans le monde. Alors l'Europe aussi, dans le sens où partout en Europe prévaut cette idée de la liberté des individus, de la liberté de penser, qui, hélas, n'est pas répandue partout ailleurs dans le monde. Mais la France a une façon assez particulière de concevoir cela et qui, en effet, met l'école au centre. Parce que c'est l'idée que c'est par l'école, comme vient très bien de le dire Gilles, que l'on acquiert cette capacité à utiliser la raison universelle pour se penser au milieu des autres, dans un espace public que nous partageons tous. Et c'est cela qui est bafoué. Le problème est justement de savoir si cela, nous le défendons suffisamment, dans le sens où est-ce que, oui, nous le faisons vivre au quotidien. Parce que ce que l'on voit...
Parce que le paradoxe, c'est que l'enseignant le faisait, lui. Il n'avait jamais renoncé à le faire. C'est ce qui est aussi assez frappant, c'est que on parle beaucoup du renoncement et de ce à quoi nous ne pouvions plus avoir accès. Et pourtant, cet enseignant-là faisait son travail et il affrontait les sujets de manière très simple et très claire avec ses élèves. Et beaucoup de ses collègues disent qu'il le faisait même de manière bienveillante.
Mais justement, Ali, si toute l'école le faisait tous les jours, cet enseignant n'aurait pas été isolé. Là aussi, il va falloir regarder comment ça s'est passé, mais cet enseignant a été menacé. La oui. principale de son collège l'a visiblement soutenu. Il va falloir regarder comment s'est joué tout cela, mais cela fait des années que certains professeurs alertent sur le fait qu'ils ne sont pas soutenus, sur le fait qu'ils se sentent fragilisés et que donc petit à petit, bien, ils renoncent parce qu'il faut une force exceptionnelle pour continuer à jouer ce rôle, à remplir cette mission, dans un cadre où l'on vous explique que si vous faites ça, vous êtes soit un bout de feu, soit un raciste provocateur. Donc, c'est pour ça que je soulignais la phrase d'Emmanuel Macron sur nous faisons bloc.
Oui.
Faisons-nous bloc réellement ? Avons-nous eu ce débat collectif qui consiste à savoir en quoi nous croyons ? Et ce qu'est la République que nous prétendons défendre. Tout le sujet est là. C'est-à-dire que il va falloir encore une fois éclaircir les circonstances précises. Mais le fait que certaines associations, que certains mouvements utilisent notre état de droit pour faire prévaloir une conception de la société qui nie l'état de droit est un problème auquel nous n'avons pas encore de réponse. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a des associations, le CCIF notamment, qui traquent la supposée islamophobie, et ce n'est sans doute pas un hasard si le père de famille qui le plus violemment a protesté contre l'action de ce professeur en a appelé au CCIF. C'est-à-dire qu'il y a là cette idée que on va utiliser tous les instruments possibles pour empêcher cette diffusion de la raison universelle et de ce qu'elle comporte d'essentiel, à savoir le fait que les individus peuvent décider librement ce en quoi ils veulent croire ou non et s'ouvrir au fait que d'autres ne croient pas la même chose qu'eux.
Gilles Finkelstein.
Oui, Ali, vous disiez, cet enseignant n'a pas renoncé à le faire. La question, je crois, qui est posée maintenant est de savoir quelle va être la portée de cet événement.
Oui.
Peut-être qu'il aura une portée limitée. On ne le sait pas à ce stade. Peut-être que beaucoup de Français considéreront que c'est un attentat de plus et que année après année, on finit par avoir une sorte d'accoutumance.
Et qu'on vit avec.
Peut-être que, à l'inverse, il y aura là une césure, un avant et un après. C'est possible parce que l'attentat est horrible, parce que c'est la figure du professeur, et donc peut-être qu'il y aura une prise de conscience, une forme d'électrochoc. Peut-être aussi, parce qu'on ne sait pas s'il y a un avant et un après, dans quel sens ça va se faire. Peut-être que ça va être aussi un geste de recul, une forme d'autocensure, c'est ce que disait Yanis Roder ce matin.
Sur Inter, oui, bien sûr.
Et d'autocensure qui peut être compréhensible. Et donc, je crois que la question qui nous est posée, et comme on a les vacances, il faut maintenant prendre les 15 jours qui viennent pour poser ça, de savoir qu'est-ce que ça voudra dire faire bloc, et qu'est-ce que ça voudra dire concrètement, le jour de la rentrée, de faire bloc. Comment on ne laisse pas les enseignants tout seuls dans cette rentrée? Comment la nation se met derrière toute l'institution scolaire et derrière les enseignants pour que cette question-là soit abordée sereinement, mais soit abordée?
On a vu ce matin le Benoît Test, qui est secrétaire général de la FSU, sortir d'une réunion avec Jean Castex et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et il annonçait une action à la rentrée, justement, dont on ne connaît pas encore les contours, à la rentrée scolaire le 2 novembre prochain dans les établissements, et sa volonté d'organiser des rassemblements dès ce dimanche. Natacha, l'ancien président de la République, François Hollande, déclarait tout à l'heure qu'attaquer un enseignant, c'est une attaque contre la République. D'après vous, c'est la définition même de la République qui est en jeu aujourd'hui?
Je le disais tout à l'heure, notre idée collective de la République est indissociable du rôle de l'école. C'est très particulier à la France et il faut rappeler à quel point c'est particulier à la France. Le New York Times a fait un titre ce matin sur son site qui disait « Un suspect abattu par la police après qu'il a attaqué au couteau un enseignant ». C'est-à-dire qu'on renverse le problème et l'horreur de l'information. Et je pense que le problème aussi, et c'est pour ça que je soulignais le rôle des réseaux sociaux, le rôle de la modernité dans ce qu'elle a dans la compréhension qu'on peut en avoir, c'est que cette conception de l'école comme lieu d'émancipation, elle n'est pas unanimement partagée, même dans ce qu'on appelle les démocraties. C'est-à-dire qu'il y a cette différence identifiée depuis déjà quelques décennies entre les démocraties libérales à l'anglo-saxonne, où l'on estime que la façon dont la France pense la laïcité est incompréhensible, que ce serait... Enfin, vous voyez à quel point la presse anglo-saxonne, en grande partie, le New York Times en tête, organise une campagne de décrédibilisation, de délégitimation de la laïcité à la française en expliquant que ce serait une forme de racisme, que la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école serait raciste. Et tout ça, ça a un impact parce que nous sommes désormais dans un univers mondialisé où ces idées-là diffusent, une forme de globalisation culturelle, et ce fait aujourd'hui nous frappe parce qu'il est au croisement entre la dimension hyper contemporaine de la globalisation culturelle et la barbarie atroce dans ce qu'elle a pour nous de plus régressif et de plus immonde, de plus archaïque, du geste tel qu'il a été fait. Et c'est cela qui se cogne aujourd'hui. Et je pense que la laïcité à la française, notre conception de l'espace politique est pris en étau entre les formes de régression que l'on peut constater partout dans le monde, de la part notamment d'une religion qui nie sa propre diversité et sa propre modernité en ce moment,
oui,
et une version ultra contemporaine d'un néolibéralisme dévoyé qui consiste à réduire la société à son plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire des individus qui n'ont plus rien à voir entre eux.
Pour rendre justice au New York Times, il faut malgré tout indiquer que dans le dernier papier qu'ils ont publié aujourd'hui, ils décrivent l'enseignant décapité comme un martyr de la liberté d'expression. Gilles Finkelstein.
Oui, Natacha.
D'accord, mais enfin, juste une chose, on est bien d'accord que le New York Times a une ligne éditoriale qui cible depuis...
Ah non, bien sûr. Mais c'est pas le...
plusieurs années la France de façon hallucinante.
Le sujet, c'était juste une précision.
Alors, Natacha disait que notre conception de la démocratie, de la laïcité, de l'esprit critique n'était pas unanimement partagée dans les autres pays, ce qui est une évidence. Si on regarde la réalité en face, elle n'est pas unanimement partagée, y compris dans notre jeunesse. Et je crois que c'est aussi la source du problème et ce qui explique... le début de l'enchaînement de ce qui s'est passé et qui a conduit à cet assassinat. C'est vrai de manière générale. Caroline Fourest a publié il y a quelques mois un livre qui s'appelait Génération offensée, dans lequel elle montrait à quel point toute remise en cause était vécue par une partie de cette génération comme un affront, comme une enfance, comme quelque chose d'insupportable.
Et ce sont des enquêtes que vous avez menées et à la Fondation Jean Jaurès et dans le magazine Marianne.
Oui, c'est vrai. Et alors, de manière plus précise, quand on regarde sur la question de la religion, on avait soutenu une étude du CNRS qui avait été conduite par Anne Muxel et Olivier Gallon après les attentats de Charlie, qui était la plus grosse enquête qui avait été faite précisément auprès des adolescents de 15 à 17 ans. Et ce travail avait été appelé la tentation radicale, parce qu'il montrait qu'il y avait toute une gamme d'attitudes, d'une neutralité bienveillante jusqu'à un soutien, une forme à la fois d'absolutisme, de séparatisme, et qui pouvait aller jusqu'au terrorisme. Et vous vous souvenez, il y a quelques semaines, lorsque s'est ouvert le procès de Charlie, on avait publié une enquête de l'IFOP dans laquelle, notamment, on montrait que le pourcentage de Français musulmans qui disaient faire passer leurs convictions religieuses avant les valeurs de la République, oui, était important, et qu'il était encore plus important chez les jeunes. Donc, je crois que ces éléments-là permettent de bien comprendre ce qui a été à la source et qui dépasse le problème que l'on peut avoir d'une conception différente avec d'autres démocraties.
Et vous aviez également été intéressé par les résultats de ce sondage ou de cette enquête d'opinion, Natacha, justement, sur la proportion de ces jeunes et de ces jeunes musulmans pour qui publier des caricatures religieuses était un tort.
Oui, parce que justement, tout l'enjeu, c'est de préserver ce qui fait notre unité nationale, c'est-à-dire le fait que nous participons tous à la même société et que nous vivons ensemble. Et pour préserver cela, il y a un principe qui est celui de l'intégration de toutes les jeunes générations par la transmission des valeurs. C'est justement le rôle de l'école, c'est là-dessus que nous devons nous interroger. Comment on fait pour transmettre cela, même à des jeunes gens qui, dans leur famille, reçoivent un enseignement qui, parfois, est très différent?
Ça, c'était extrêmement compliqué, Gilles.
Ouais, je vais peut-être ajouter un autre élément qui a été peu évoqué, mais qui illustre bien l'ampleur du problème. C'est que ce qui s'est passé là, s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine. Conflans est une ville dans laquelle il y a, disons, les débuts de concentration communautaire. Mais pour l'essentiel, Conflans, c'est la ville des bateliers, c'est la ville des mariniers, c'était la ville qui a été administrée par Michel Rocard et par Jean-Paul Huchon pendant longtemps. C'est une ville dans laquelle beaucoup d'investissements ont été faits auprès des associations, du monde culturel, pour le lien social, dans laquelle la structure urbaine n'est pas du tout celle de grandes cités, de densités, mais de quartiers pavillonnaires, ce qui était le cas de celui dans lequel les événements se sont passés, y compris dans dans ce quartier et dans ce collège, qui est un collège récent, relativement récent, qui a une vingtaine d'années, il n'y avait apparemment aucun problème majeur. Et pourtant, il y avait des problèmes.
Il y avait des problèmes, évidemment. Et on aura l'occasion d'y revenir dans l'ensemble des journaux de la rédaction de France Inter tout au long de cette journée. Restez à l'écoute de notre antenne. Et il y a maintenant, Gilles et Natacha, un autre sujet sur lequel nous allons nous arrêter. C'est celui, évidemment, du couvre-feu, des nouvelles mesures décidées par le gouvernement pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie. On va maintenant retrouver Emmanuel Hirsch, notre invité. Un entretien enregistré hier, avant l'attaque.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas son rôle, ne met pas sa part. Voilà la clé. J'ai besoin de chacun d'entre vous, que nous avons besoin les uns des autres, pour trouver des solutions, pour inventer, pour être citoyen en respectant les règles, pour nous-mêmes et pour les autres, mais surtout pour inventer. Et on sortira de cela en étant une nation plus résiliente.
Emmanuel Macron, le président de la République, c'était donc mercredi soir devant 20 millions de Français, de téléspectateurs. 20 millions de Français, c'est aussi le nombre de personnes qui sont soumises au couvre-feu depuis ce week-end. Et justement, la démocratie à l'épreuve du Covid, c'est le sujet du débat ce samedi. État d'urgence sanitaire, couvre-feu, de nouvelles mesures pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie. Et pour certains, des limites à nos libertés, à l'exercice de la citoyenneté. Notre invité aujourd'hui est professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris-Saclay. Il y préside aussi le conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique et il dirige une somme, Pandémie 2020, éthique, politique, société. C'est publié aux éditions du CERF, un ouvrage collectif, plus de 130 contributeurs rédigés en plein cœur de la pandémie. C'est passionnant, les regards sont très divers et foisonnants. Bonjour Emmanuel Hirsch.
Bonjour Alibali.
Et bienvenue, ça fait des années maintenant que vous travaillez sur ces questions. Vous aviez d'ailleurs dirigé un autre livre collectif, c'était au moment d'une autre épidémie, c'était la grippe H1N1 à l'époque, mais restons aujourd'hui dans ce qui se passe en 2020 avec la pandémie du Covid-19. On va parler des questions éthiques posées par cette maladie, les défis qu'elle pose à notre société et à notre démocratie, mais d'abord sur le ton de l'intervention du président de la République. Est-ce que vous avez le sentiment que mercredi, on est passé à un autre registre, à un autre rapport entre le monarque républicain et les citoyens sujets que nous sommes?
D'abord, j'ai du respect pour le président de la République, qui est un intellectuel. Quand il nous parle de la France, il a appris que la France, elle fait nation et qu'on doit apprendre qu'on fait nation. On l'a pas attendu, hein. Depuis le début de la pandémie, heureusement que la France et la démocratie est vitale, et j'allais dire est vivante, vivace, créative. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi on n'en a pas tenu compte. C'est-à-dire, on a l'impression de décision. On a des décisions un peu surplombantes, c'est-à-dire, voilà, on arrête à un moment donné la vie de la nation le soir, pour des raisons de santé publique que je ne conteste pas, mais ce qui m'interpelle, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis le déconfinement. C'est-à-dire que le Premier ministre avait cette charge, qui lui a d'ailleurs réussi, puisqu'il est devenu Premier ministre. Et selon quels critères on peut dire que le confinement a été une réussite alors que pour moi c'est un échec?
C'est un échec.
C'est un échec déjà politique parce qu'il fallait mobiliser la société. Vous comprenez, s'il faut attendre une intervention du président de la République pour savoir comment on va se comporter, comment on doit faire et avoir des admonestations directes ou indirectes, c'est-à-dire ce côté à la fois paternaliste, bienveillant et autocratique d'une certaine manière, où a été la concertation? Et je dirais que ce qui m'a beaucoup intéressé dans le rapport qui vient de sortir, vous savez, c'est un rapport intermédiaire de Didier Pittet
sur l'infectiologue suisse, voilà, inventeur donc, du gel hydroalcoolique.
Voilà, il a une mission en quelque sorte d'audit, d'une certaine manière, de proposition. Et il dénonce l'absence de démocratie, alors qu'on avait tout un ensemble de ressources. Vous avez évoqué l'ouvrage qu'on avait coordonné sur le H1N1. J'ai beaucoup travaillé sur les questions du sida. Et un des points importants, pour être très très concret, c'est comment mobiliser la jeunesse. Rappelez-vous, dans les années sida, il y avait le CRISP, par exemple, il y avait des structures comme le Centre Régional d'Information et de Prévention sur le sida. Il y avait toute une démarche proactive avec toutes les personnes concernées, notamment les personnes les plus vulnérables. Qu'en est-il concrètement? Oui. Alors on nous dit aujourd'hui, encore une fois c'est dans une critique que j'ai trouvée tout à fait bien construite de la part de Didier Pittet, mais qu'en est-il concrètement? C'est-à-dire comment d'une affaire sociétale, d'une affaire qui touche à la vie de la démocratie, voire à sa survie, puisqu'on voit dans quel ébranlement aujourd'hui et dans quelle inacceptance les gens se trouvent aujourd'hui. C'est-à-dire on est vraiment à un moment pivotal, y compris quand on nous dit que les élections risquent d'être reportées pour cause de Covid. Où est la démocratie? Où est le Parlement? On aurait pu aussi demander au Conseil économique, social et environnemental de mobiliser tous ses talents, ses compétences pour créer du débat. Il y avait tout un ensemble d'instances. Et ce que je constate sur ma fiche de démocrate, c'est aucune des cases n'a été prise en compte, y compris, et je termine, la démocratie en santé.
On avait la démocratie en santé, expliquez-nous.
C'est depuis la loi du 4 mars 2002. Vous savez que dans les années sida, on a vu l'irruption d'un savoir, d'une expertise qui était l'expertise de la personne malade. Et il y a eu toute une prise en compte du milieu associatif, avec une expertise de fond. Qu'en a-t-on fait depuis le début de cette crise, alors qu'à peu près 700 000 personnes atteintes de maladies chroniques ont été exclues du soin? Aujourd'hui, à l'Institut Gustave Roussy, ils nous disent que 2 à 4% des personnes atteintes de cancer vont être en surmortalité. Et aujourd'hui, alors qu'on nous annonce effectivement qu'on a dans le couvre-feu, on ne nous dit pas ce qui va en être dans les stratégies de triage entre les personnes Covid-19, et j'arrive à comprendre que c'est un enjeu important de santé publique, et les autres malades. Vous voyez, donc tous ces éléments justifier un débat public, c'est-à-dire si on choisit, y compris dans les EHPAD, et tout à l'heure, je pourrais vous donner des exemples concrets, ce qu'on fait sur le terrain, c'est-à-dire nous, on n'a pas attendu aujourd'hui pour commencer à se mobiliser. En tant qu'espace régional, vous savez que chaque région a un espace régional d'éthique, et donc moi je dirige l'espace éthique de la région Île-de-France. On va sur le terrain. Hier, j'étais dans un EHPAD à Levallois, et je peux vous dire la créativité, heureusement que les gens n'attendent pas le signal stop départ.
Et on va justement en parler, il y a beaucoup de questions à vous poser, de sujets dont on veut débattre avec vous, Emmanuel Hirsch. À la fois, vous affirmez votre conviction que vous êtes fier de la force de notre démocratie, et d'un autre côté, vous dites qu'il convient de tout faire pour que le Covid-19 ne contamine pas notre vie démocratique, alors qu'il doit au contraire en aviver les significations. Natacha Polony, puis Gilles Finkelstein.
Vous venez dans votre propos liminaire d'évoquer énormément des thématiques qui sont dans ce livre et qui sont absolument passionnantes. La question du tri, la question aussi de la façon dont on s'adresse à des citoyens. Il y a différentes réflexions sur l'usage de la peur en sciences comportementales qui sont passionnantes. Et vous évoquiez aussi la question de la jeunesse. Et en fait, un des éléments qui m'a frappé dans l'intervention d'Emmanuel Macron était la vision qu'il avait de la jeunesse et donc de la jeunesse au sein de la société en général et de la façon dont on conçoit les rapports entre les différents citoyens suivant leur âge. Parce qu'il me semble
c'est dur d'avoir 20 ans en 2020.
Voilà, Natacha. C'est ça. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Est-ce que la question de la responsabilité des citoyens, qu'ils soient jeunes ou vieux, se résume à cette question? C'est dur. J'ai l'impression que ce qui n'a pas été préparé pendant toute la période de déconfinement, c'est justement cette question-là, c'est-à-dire de partir du principe qu'un jeune aujourd'hui d'abord ne se résume pas à quelqu'un qui veut faire la fête, et qu'ensuite c'est quelqu'un qui participe pleinement à la société et qui n'en est pas un élément à part, qui aurait une vie à part. Je pense que cette inclusion de tous les citoyens n'a pas été prise en compte, n'a pas été préparée.
Vous l'avez dit, Emmanuel Polony, y compris dans d'autres écrits que j'ai lu avec beaucoup d'attention, c'est dur d'avoir 60 ans quand on est dans un contexte de pandémie, c'est dur d'avoir 20 ans, mais la personne ne se caractérise pas par son âge. Quand vous regardez l'héroïsme, allez dans les EHPAD, ce sont des jeunes, vous allez dans des services, ça ne veut rien dire. Et vous avez une espèce, j'allais dire, de discrimination, j'allais dire, tout à fait globale, pour donner une espèce de lisibilité, une explicabilité, alors qu'on ne va pas au fond des questions. Moi, ce qui me semble important, c'est de constater que c'est dur d'être démocrate face à une pandémie. Et une pandémie, effectivement, qui nous a laissé un peu dépourvus au départ. Mais je pense qu'il y avait des réponses en termes de démocratie, notamment de valoriser tout ce qu'a été la réaction et l'intelligence de notre démocratie.
Vous pensez
tout
qu'on n'a pas assez délibéré? Vous pensez qu'on n'a pas assez discuté des différents choix, des différents scénarios, des différentes
options? On peut
rendre
des hommages, applaudir les gens, ou faire le 14 juillet un hommage national aux personnes qui ont été sur le terrain, aux invisibles, et aux négligés de notre démocratie, aux soutiens de la démocratie. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on a fait de cette intelligence? C'est-à-dire, immédiatement après le confinement, il fallait organiser, alors peut-être à travers des grands débats, à travers tout un ensemble de mobilisations, un travail de terrain. Vous voyez, dans la mission de Didier Pitet, donc la mission
d'évaluation des politiques, par l'exécutif,
ils disent
de la
qu'ils font un
COVID-19.
Travail d'observation en Seine-Saint-Denis. Vous savez que c'était effectivement un département particulièrement touché. Mais ce travail d'observation, il donne toute une intelligence de l'approche au niveau des sciences humaines et sociales, tout ce qui nous a manqué, que le président de la République n'a pas pris en compte, y compris s'il y a des conseils scientifiques. Ce qui me frappe aujourd'hui, si vous voulez, c'est cette inintelligence du réel, voilà. Ou ce dédain par rapport au réel. Et vous me posiez la première question, Elie Badou, qu'est-ce que j'ai compris du président de la République? J'ai compris qu'il est aussi démuni qu'on l'est, qu'il navigue à vue, et j'arrive à le comprendre, mais il n'y a pas un vrai
malgré
projet.
Malgré l'ampleur des moyens mobilisés,
non, mais
Emmanuel Hirsch.
Il n'y a pas de vrai projet aujourd'hui. Juste quelque chose qui m'a frappé. Le ministère de la Santé, c'est aussi le ministère des Solidarités.
D'accord, oui.
Qu'en a été-il de la gestion des solidarités? Est-ce qu'il n'y avait pas une dimension interministérielle? Est-ce qu'il n'y avait pas un signal fort en disant, voilà, il y a une instance? Et d'ailleurs, aussi, Didier Pitet dit, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de ligne directrice. On a l'impression d'un ajustement au jour le jour. Encore une fois, je remets pas en cause la difficulté de gouverner dans un contexte d'incertitude, y compris international. Il n'y a pas, encore une fois, que la pandémie. Mais je dis, ayons au moins l'humilité de se dire qu'on peut faire ensemble. Et vous voyez, les sciences humaines et sociales, par exemple, ce qu'on a fait dans l'ouvrage, peuvent éclairer la décision politique, argumenter le débat, et j'allais dire pour des décisions vitales comme celles qui sont à prendre, il y a les décisions économiques, et je rends hommage au ministre qui est Bruno Le Maire, j'ai l'impression que lui, on voit une trajectoire, mais ça va pas être soutenable sur un long terme, c'est ce que j'appelle, non pas du compassionnel, mais c'est du palliatif. Mais au niveau sociétal, au niveau, j'allais dire, de la mobilisation de la société face à ces défis, qui ne sont pas que la pandémie, c'est tout ce que ça révèle en creux de nos difficultés sociales, je dis, on n'est pas à la hauteur, voilà.
Gilles Finkelstein.
Oui, je partage un point, je voudrais en nuancer un autre. Le point que je partage, c'est on est dans un système démocratique ou politique où, à nouveau, encore une fois, toujours, c'est le président de la République, et seulement le président de la République qui peut s'exprimer sur ces questions. Il a voulu éviter cette question depuis le mois de septembre. Il a parlé de tout, sauf du Covid, depuis la rentrée. Et il n'a pas pu faire autrement que d'y revenir à nouveau, parce qu'il a été très présent dans la première phase et qu'il ne pouvait pas être totalement absent dans la seconde, si ce n'est que les citoyens, dès lors que le président ne parlait pas, avaient le sentiment que puisqu'il ne parlait plus, c'est que la situation n'était pas si grave. Donc il s'est mis lui-même dans un piège, et c'est un piège qui est aussi un piège collectif. Le point sur lequel je voudrais nuancer pour le plaisir de la discussion, c'est au moins sur l'intervention du président de la République de cette semaine, j'ai eu l'impression que ce n'était pas exactement le même président de la République. C'est-à-dire que par rapport aux interventions un peu martiales, très verticales de la première partie, il a tenté, je ne sais pas s'il y est parvenu, mais il a tenté de tenir un discours de vérité, disant ce qu'il savait, ce qu'il ne savait pas, reconnaissant, non pas des erreurs, il ne faut pas exagérer, mais des difficultés, un discours de clarté dans lequel il y avait des objectifs clairs qui étaient fixés, un calendrier dans lequel il utilisait les mots, la deuxième vague, le couvre-feu, hein, qui n'est pas rien, et où il a tenté là aussi un discours de rassemblement. C'était très frappant, mais pour les raisons que sans doute que vous évoquez, le refus de stigmatiser les jeunes, la volonté d'associer ici les syndicats, là les maires, cet appel récurrent au bon sens.
Donc, j'ai besoin de vous.
Donc j'ai trouvé que c'était pas exactement le même président de la République, mais sans doute pour la raison que vous avez évoquée, c'est-à-dire qu'on est dans un moment pivotal et où il sent que les choses sont très fragiles.
Emmanuel Hirsch.
Je conteste pas votre analyse. Là, on a un politique qui est en phase électorale, voire électoraliste, et qui tient un discours paternaliste, un discours protecteur, que les gens, et j'imagine que ces communicants ont dû dire que la population a besoin aujourd'hui d'entendre.
Mais il s'est défendu de tenir un discours d'infantilisation.
Attendez, moi je trouve que un discours un peu protecteur, avec des décisions qui sont des décisions abruptes, alors même si on dit qu'il y a un accompagnement, moi je regarde toujours les conséquences, j'allais dire fondamentales. Je pourrais vous faire moi des propositions concrètes, on n'a pas eu vraiment de propositions. On est face à une situation qui n'a pas été maîtrisée, qui n'a pas été contrôlée. Moi je dis qu'elle aurait pu être maîtrisée et contrôlée si on avait responsabilisé la population. Et plutôt que nous dire la sortie du confinement, c'était retrouver votre liberté, retrouvons l'économie d'une certaine manière. Donc il y a eu des choix stratégiques qui ont été faits, je ne les conteste pas. Il y a à arbitrer en matière d'éthique et en matière de politique, on arbitre. Et je vois aussi les dilemmes qu'il peut avoir entre l'avis du conseil scientifique et une décision politique avec un impasse sociétal d'une société qui est déjà minée. Il y a eu les gilets jaunes, donc on voit les fragilités qui sont consubstantielles de notre société. Moi ce qui m'intéresse c'est comment on redonne de la cohérence, de la force et de l'envie de démocratie. Donc moi je ne vois pas de projet, c'est-à-dire je vois effectivement d'une manière conjoncturelle, on ne peut pas faire autrement que d'aller vers un confinement, parce que c'est une forme de confinement, j'allais dire dans un contexte où il y avait d'autres enjeux qui permettaient pas immédiatement le confinement. Mais vous voyez, ce mot de confinement, j'ai l'impression qu'on est confiné par le Covid. Vous voyez, Emmanuel Levinas dit toujours qu'il faut mettre de l'ouverture quand on est dans l'enfermement. Moi, je vois pas d'ouverture. Je vois une stratégie précaire qui ne rassure pas et qui, au contraire, inquiète. C'est-à-dire, on voit pas la proportionnalité de ces mesures, on voit pas l'explicabilité. Il y a un déficit de communication qui, pour moi, est aussi une forme de déni d'avoir à se justifier. Moi, je dis, quand on est comptable de ses actes, on se justifie. On l'accuse pas. Moi, j'ai un respect infini pour le président de la République et je n'aimerais pas être à sa place et je vois toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Il a eu des propos justes, quel qu'en soit le coup, quand il a dit au tout début, on n'abandonnera pas sur le bord du chemin les personnes vulnérables, et qu'on a des grands intellectuels qui nous ont dit que c'était irresponsable d'un point de vue moral. Je pense à André Comte-Sponville, et que par conséquence, les générations jeunes, et c'est là où la responsabilité, quand on parle des jeunes, elle est aussi imputée à certains grands intellectuels, qui, sortant en quelque sorte du confinement, n'ont rien trouvé de mieux que de démobiliser la société par rapport à des valeurs de la démocratie. Donc je lui rends hommage, et je le soutiens. Mais j'aurais voulu aussi qu'on nous dise comment on va choisir demain. Parce qu'aujourd'hui, on est, vous voyez ce qu'est l'hôpital. Donc, comment on va trier, comment on va sélectionner, comment on va accompagner les personnes au domicile, qu'est-ce qu'on va faire des personnes les plus vulnérables, puisqu'on oui. voit, pas uniquement en France, je suis pas en train de dire la France est pire que les autres. Et regardez, encore une fois, le rapport qui est en cours de constitution avec Didier Pittet.
Donc, il fait une comparaison.
Et oui, là, mais il rend hommage à un certain nombre de dispositifs. Mais je dirais, d'un point de vue sociétal, pour résumer la situation, je dis c'est zéro pointé.
Natacha Polony.
Je partage en grande partie votre vision de justement de cette absence de chemin précis et clair, et surtout de l'absence de réflexion sur cette question fondamentale qui est la question démocratique, puisque il me semble que face à une crise comme celle-là, comme d'ailleurs face à n'importe quel autre type de crise, la seule façon de s'en sortir à peu près correctement et raisonnablement est de se poser la question de la façon dont on va faire en sorte que les citoyens puissent décider lucidement de ce qu'il convient de faire et le décider tous ensemble. C'est-à-dire, or, évidemment, là, ce n'est pas ce qui a été fait, mais est-ce Emmanuel Macron le responsable? Je ne crois pas. Nous sommes dans un système qui, depuis des décennies, a fragilisé petit à petit cette démocratie. Et je pense que cette crise-là ne fait que révéler cela. J'en prends un exemple. La question de la gouvernance par les nombres. C'est-à-dire, à partir du moment où on considère qu'il y a des données statistiques qui nous racontent le réel tel qu'il est et que nous devons nous conformer à ce que disent ces données statistiques pour des choix qui doivent être des choix efficaces, on s'interdit de décider collectivement et librement de ce qui doit être fait. J'ai l'impression qu'en fait, c'est ça qui s'est joué. C'est-à-dire que le coronavirus n'est qu'un révélateur de toutes ces faiblesses, petit à petit, qu'on a laissé s'installer. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est très pénible. Parce que ça nécessite, en effet, d'abord d'éduquer les gens pour qu'ils exercent leur rôle démocratique. Or là aussi, on s'aperçoit dans cette pandémie que, au contraire, la gouvernance par la peur, l'idée de jouer sur les émotions est plus facile en apparence, ça crée ensuite des difficultés majeures et nous sommes en train de le payer. Je pense que tout cela c'est joué, mais la seule question, c'est comment on en sort.
Tout à fait.
Quelles étaient les marges de manœuvre d'Emmanuel Macron là maintenant, sur le court terme et sur le long terme?
Je vais tout à fait dans le sens de ce que vous dites en disant que Emmanuel Macron n'a pas eu l'intelligence politique qu'il aurait pu avoir en faisant un effet levier en termes de légitimation, de relégitimation, précisément parce que la pandémie, il n'en est pas responsable et que c'est un phénomène planétaire et qui touche la société à tous ses niveaux et dans tous ses aspects. Donc il y avait un formidable...
Mais comment délibérer lorsqu'on manque de certitude, lorsqu'on est face à une crise totalement inédite et qui prend de vitesse tout le monde?
Je vais vous répondre, mais pour aller dans ce sens-là, je pense qu'il y avait une formidable opportunité et les Françaises et les Français sur le terrain, les fameux invisibles dont on a parlé, l'ont compris, puisqu'ils ont réagi sans prescription. On l'a compris aussi dans les EHPAD, quand les gens étaient transgressifs par rapport à des prescriptions qui venaient d'en haut de l'ARS, qui étaient inapplicables. Donc il y a eu toute cette intelligence. Et on devrait, et à plusieurs reprises, d'ailleurs le chef de l'État a rendu hommage à cette... Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a dilapidé alors qu'on pouvait la faire fructifier et réinventer de la démocratie, et réinventer de la gouvernance. Donc pour répondre à cette affaire, je dirais que tous les plans préparatoires à des pandémies disent que l'enjeu fondamental, c'est la cohésion de la société dans un cadre de loyauté. Et que le politique, quelles que soient les décisions difficiles qu'il apprendent, doit pouvoir les justifier du point de vue de leur proportionnalité, de leur contrôle, de l'observation des conséquences que ça. Et voyez, on devait faire immédiatement, alors ça a été fait d'une manière un petit peu empirique, une observation des conséquences, j'allais dire, du confinement. On a vu qu'il était impraticable dans la violence que ça suscitait, dont les gens ne se remettront pas. Enfin, je veux dire, il y a des gens endeuillés, il y a des gens meurtris, il y a les malades du Covid-19, c'est une réalité pathétique. Mais je dirais que l'homme d'autorité doit créer, j'allais dire, un consensus à travers la sollicitation des forces vives d'un pays. Et encore une fois, je suis pas en train, le rapport n'est pas terminé, mais les députés disent quelque chose d'intéressant. Ils vont aller vers le milieu associatif, vers tous les réseaux qui se sont mobilisés en Seine-Saint-Denis. Mais il n'y a pas qu'en Seine-Saint-Denis que ça s'est passé. Là, on dit Seine-Saint-Denis, c'est même un peu stigmatisant. On sait ce qu'a vécu la Seine-Saint-Denis en tant que pandémie susceptible d'accentuer les vulnérabilités. C'est la même chose aux États-Unis. Donc il y a toute cette lecture. Ce que je veux dire, et je termine sur ce point, c'est qu'il ne faut pas qu'on se focalise que sur la réponse à la pandémie en termes de Covid-19, comment on va lutter scientifiquement, médicalement. On a un phénomène de société internationale, j'allais dire, qu'il faut penser en termes de renouvellement, y compris de la gouvernance. Et bien là, on reste très traditionnaliste et on a quand même le sentiment, mais je ne veux pas critiquer encore une fois les gens, d'une certaine forme d'impuissance. C'est-à-dire on est suiviste et on a l'impression que finalement beaucoup d'éléments qui auraient pu être analysés et hiérarchiquement pris en compte dans les décisions. Un exemple parmi tant d'autres, l'histoire de la culture. On aurait pu, d'une certaine manière, mobiliser le milieu culturel, on aurait pu organiser du débat de fond sur comment on réinvente une société. Il y avait des lignes directrices, on l'a trouvé pour le grand débat. Pourquoi n'était-on pas aussi inventif alors qu'on pouvait circuler et que les idées ont circulé? Juste un dernier point, on a dit la France apprenante, mais la France a appris, et le défi, à mon avis, pour le chef de l'État, c'est le défi de gens qui, aujourd'hui, ont une culture, ont appris, sont prêts aussi à comprendre qu'on est dans une société du risque, qu'il y a du terrorisme, qu'on est dans un environnement instable. Tout ça, on a le sentiment qu'il ne l'a pas compris, ce qui veut dire que la France aurait pu se mobiliser différemment que quand on lui dit c'est terminé ce soir, couvre-feu. C'est invraisemblable, c'est trop abrupt. Je comprends, j'allais d'un point de vue épidémiologique, cette urgence, mais cette urgence dénonce aussi une incapacité à avoir pu créer un environnement favorable à l'acceptabilité. Et vous voyez, ce qui m'inquiète le plus pour la démocratie, c'est à un moment donné la non-acceptabilité et la non-acceptabilité par rapport aux politiques. C'est-à-dire, globalement, c'est les politiques qui vont être mises
en cause.
Et c'est ça qui est dangereux.
Quand il n'y a plus d'acceptation, il y a de la violence et de la tension. Et c'est ça qui est dangereux.
Les annonces qui ont été faites cette semaine, et notamment le couvre-feu, sont évidemment un échec. C'est-à-dire que personne ne voulait arriver à ce point-là. Deux questions. Une question sur le passé. Quelles sont, d'après vous, les causes de cet échec? Parce qu'on peut dire, on a beaucoup entendu ça, c'est l'irresponsabilité des Français qui se sont relâchés, les Français en général, les jeunes en particulier. Après, on peut juger d'ailleurs que ce relâchement est compréhensible ou qu'il est coupable, mais c'est une première lecture. Il y a une deuxième lecture qui est de dire la cause, c'est les insuffisances des pouvoirs publics, soit des décideurs publics, c'est ce que vous dénoncez, leurs équivoques, leurs louvoiements, leurs atermoiements, ou l'organisation de notre système de santé et de décision qui est extraordinairement centralisé. Donc, première question, c'est quoi votre lecture sur les causes? Pourquoi en est-on arrivé là? Et puis, deuxième question, puisque vous êtes professeur d'éthique médicale, sur les valeurs. Et comment se fait,
pour vous, comment doit se faire dans une société démocratique l'arbitrage entre des valeurs, des principes, des intérêts, entre la santé et l'économie, entre les jeunes et les vieux, entre la sécurité et les libertés? C'est quoi la procédure pour trouver démocratiquement un chemin?
Emmanuel Hirsch.
Monsieur Guettet, à travers toutes les études que vous faites, vous êtes plus compétent que moi pour répondre. Mais je répondrai sur le point de pont. Le point de départ, à mon avis, c'est la défiance. C'est-à-dire, j'ai l'impression que nos politiques et nos administratifs aussi ont une défiance, c'est-à-dire un manque de confiance en eux et en la société. Et c'est ça qui est le plus fondamental. Dans tous les textes autour de la pandémie, on dit que l'enjeu fondamental, c'est aussi maintenir une relation de confiance, construire, co-construire, associer les gens, faire appel, j'allais dire, à la diversité des compétences et à la diversité aussi des vulnérabilités. On est tous vulnérables. Donc il faut partir de ce principe. Donc comment on renforce une société? Comment on l'anime? Comment on fait du débat, d'une certaine manière? Et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, le débat a eu lieu sur les chaînes de radio, sur la chaîne de télé. Il n'y a pas eu lieu au Parlement, il n'a pas eu lieu dans l'espace public. On n'a pris aucune initiative alors que beaucoup de personnes...
Il y a eu des auditions devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat de certains responsables. Il y a eu des débats malgré tout et le vote d'une loi sur l'état d'urgence sanitaire.
Attendez, le débat, c'est pas uniquement en théorie. Là, effectivement, il y a des missions d'enquête, il y a tout un travail qui est fait et on verra les résultats. Ils seront, à mon avis, trop tardifs pour pouvoir vraiment corriger le tir. Le débat, et ça, c'est par rapport à la question de Gilles Fiskenchild. Moi, je suis professeur d'éthique, je déteinte pas d'éthique. Je suis membre de la cité. Pour moi, l'éthique, c'est l'intelligence de l'argumentation. Et vous voyez, s'il y avait débat, c'était pas uniquement théorique, faut-il faire, faut-il pas faire. C'est sur des questions extrêmement précises. Je vais vous donner un exemple précis. Il se fait donc que je vais beaucoup dans les EHPAD. Et vous avez les conseils de la vie sociale dans les EHPAD, donc qui sont les instances démocratiques, qui, dès la sortie du confinement, ont voulu faire un retour d'expérience. Donc on a réuni les pensionnaires, enfin les résidents, les familles, un certain nombre d'interlocuteurs qui travaillaient, y compris au domicile. On a dit, si demain on se trouve dans cette crise, devant une nouvelle crise, et tout le monde savait effectivement qu'on était dans une crise qui allait sur le long terme, donc qui était chronique, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a des personnes qui ont dit, il est hors de question que j'aille en réanimation. On va tout faire pour privilégier la vie sociale. On s'est rendu compte que ce qui est important, c'est la relation. Donc travaillons sur comment préserver la relation. Voilà, on hiérarchise ce choix. C'est pas la santé, c'est pas la survie, c'est la relation. Quitte à prendre des risques. C'est-à-dire, on évalue effectivement qu'il y a une dangerosité de prendre cette option. Et on fait aussi tout pour que les décideurs, parce que c'est facile de leur dire, vous avez une faculté d'appréciation, mais ensuite, on voit la judiciarisation, c'est dans l'actualité. Donc les décideurs ont aussi à prendre ces éléments. L'important, si vous voulez...
L'acquisition chez le ministre de la Santé...
Mais ça m'a beaucoup frappé, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, alors qu'on a besoin de cohésion, de cohérence, etc., on crée de la défiance supplémentaire. Bon, c'est un autre sujet. Mais pour répondre à la question de Gilles Fiskenchild, moi je pense qu'il fallait revenir sur le terrain. Il y avait quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire on aurait pu effectivement anticiper. On a anticipé le risque de terrorisme jusqu'à faire qu'il y ait des répétitions éventuellement de situations difficiles de crise dans les écoles. Donc il y a eu cette privilégiation, mais on n'a pas pris en compte véritablement ces questions de santé publique. Je ne vais pas détailler, il y a tout un ensemble de mécanismes. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'on pouvait véritablement mobiliser la société, oui, à travers des questions extrêmement précises. Et par exemple, ça a l'air de rien, mais le choix du confinement, parce qu'il y aura un nouveau confinement, le choix des restrictions des libertés individuelles, qui, d'une certaine manière, crée aussi de la suspicion, maintenant même, sur les enjeux, sur les finalités, sur le pourquoi et le comment. Il n'y a pas d'explicabilité. Alors, on peut très bien dire, il n'y a rien à voir, regardez le coronavirus, voyez les chiffres. Mais derrière des chiffres, il faut aussi trouver du sens. Il faut trouver, vous l'avez dit, des valeurs. Et pour moi, les valeurs, c'est d'abord rappeler qu'elle est l'inconditionnelle, et je trouve que le chef de l'État l'a fait. Il a dit, une démocratie a des valeurs fondatives, et j'ai lu aussi, Natacha Polony, vous l'avez dit, à certains moments, ces valeurs de respect de la personne dans ses vulnérabilités. Plus une personne est vulnérable, plus on a d'obligations à son égard. Et ça a été décliné à travers un certain nombre de choix. La vraie question, c'est que ça n'a pas toujours été accompagné par les mesures adaptées et qu'il n'y a pas eu vraiment un retour d'expérience. Et je dis en termes de vérité, en termes de loyauté, en termes d'acceptabilité, il fallait qu'il y ait un retour d'expérience. Non pas pour condamner, pour critiquer, mais on était face à l'inattendu. Et très rapidement... qu'on arrive à faire l'inventaire, d'une certaine manière, de ce qui a marché ou pas, pour se mobiliser pour la suite, puisqu'on savait d'emblée qu'on était dans la chronicité. Il fallait pas nous dire « allez en vacances et puis vous retrouverez après l'été ». Voilà, c'est ça aussi qui crée de la défiance, et on pourrait l'analyser, mais je suis assez rapide, mais c'est pour répondre à votre question. Les valeurs, excusez-moi de vous dire, les gens savent ce que sont les valeurs de la démocratie. Quand ils vivent la démocratie sur le terrain au plus près d'une réalité difficile, j'aime autant vous dire qu'à TD Carmonde, ils savent ce que c'est la valeur.
On est dans le début d'un bouleversement, me semble-t-il, de notre organisation sociale, économique, bien sûr. On commence seulement à percevoir à quel point, par exemple, cette pandémie va modifier l'organisation des entreprises, le nombre de gens qui auront accès à un travail, parce que ce qu'on perçoit maintenant, c'est qu'après la destruction des classes ouvrières, ce sont en fait les emplois de cadres qui risquent de disparaître plus vite parce que cette pandémie accélère un mouvement qui était déjà à l'œuvre. Là aussi, comment on anticipe ce qui est un bouleversement dont on sent qu'il va être absolument majeur à terme pour l'ensemble de la société.
Emmanuel Hirsch.
Je répondrais peut-être moins que si j'étais un politique. Hein. Je dis toujours qu'à ma prochaine réincarnation, j'ai plus envie que jamais de faire de la politique. Et donc j'aurai une intelligence que je n'ai pas aujourd'hui de cette réalité. J'ai l'impression qu'il y a eu une réponse palliative, intéressante et justifiée. Et Bruno Le Maire, me semble-t-il, parmi un certain nombre d'acteurs qui étaient engagés, a su avoir à la fois la tonalité, c'est-à-dire les mots, et une tonalité juste, c'est-à-dire en termes de compassion, en termes d'attention. En tous les cas, c'est important. C'est la même chose pour Roselyne Bachelot. Enfin, il y a des personnalités qui, moi, sont des figures politiques. On parlait tout à l'heure du discours du président de la République. Je préfère ce type de discours, à la fois très très concret, très réaliste, courageux d'une certaine manière, et qui soit également avec une dimension de compassion. Donc je pense qu'il y avait l'immédiate. On apparaît à l'urgence, puisqu'on est dans une situation d'urgence et d'incertitude absolue, de complexité, parce que on a oublié de parler de toutes les controverses scientifiques, de toutes les polémiques autour du processus décisionnel, qui a encore ajouté de la confusion et la difficulté
et
à décider.
Vous y revenez justement dans votre livre.
On le développe. Donc ça, tout ça pour dire que ce qui me manque, si vous voulez, c'est l'accompagnement d'une réflexion de fond. C'est-à-dire, on est une France qui pense, hein, une France qui apprend. Il y avait tout un milieu à la fois de terrain, de professionnels, de gens enracinés dans la réalité, d'intellectuels, et on voit qu'il y a eu des initiatives intéressantes en sciences humaines et sociales. J'étais à un colloque encore récemment qui a été organisé à Saclay, je suis stupéfait par toute cette analyse. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est-à-dire peut-être que cette analyse pourrait être utile aux politiques.
Vous voyez, et c'est passionnant parce que c'est vrai qu'il y a des tas d'approches différentes avec des expertises différentes
et avec un regard aussi comparatif international. Alors l'émission de Didier Pitet, elle a cette vocation, mais je dirais que il faut mobiliser la communauté intellectuelle, j'allais dire, par rapport à ces questions. Et vous voyez, peut-être que la critique que j'ai la plus profonde, c'est qu'on en a fait une affaire.
L'émission touche malheureusement à son terme.
Oui, mais on en a fait une faire entre soi. C'est-à-dire, la dimension politique, c'était une dimension de rayonnement, non pas de mise en cause des décideurs, mais de partage d'une décision, d'intelligence de la décision. Moi, ce que j'appelle la décision partagée. Et c'est là où la démocratie souffre aujourd'hui.
Gilles, d'un mot.
Je reste sur les valeurs, mais cette fois-ci sur l'avenir. On fait la recherche sous Covid, la recherche dans l'urgence. Jusqu'où peut-on aller par rapport aux règles qui sont traditionnellement les nôtres? C'est vrai sur l'inoculation des vaccins, c'est vrai sur le traçage. Jusqu'où peut-on aller?
J'ai fait un article vendredi dernier dans Le Monde sur le vaccin et j'ai travaillé, puisque c'est mes missions à Orsay, sur l'intégrité scientifique. Voilà des questions en soi qui n'interrogent pas que le politique, mais qui ont à voir aussi avec la relation de la nation avec sa science, avec ce dont on attend tout aujourd'hui. Moi j'ai l'impression, et c'est tous les textes internationaux, y compris de l'OMS, que quand on est dans une situation exceptionnelle, c'est la même chose en urgence, on doit avoir quelquefois une éthique de situation qui peut aborder des questions d'une manière un peu exceptionnelle. C'est ce qu'on fait par exemple dans les traitements compassionnels, quand on n'a pas un traitement qui est d'une manière robuste, on va quand même le tenter s'il faut sauver une vie humaine. Donc je pense qu'il y a une approche au cas par cas. Pour le vaccin, alors là je suis beaucoup plus dans la réserve, sur la communication. J'arrive à comprendre qu'on ait une espérance d'un vaccin, qu'on ait une expérience d'un traitement et que l'issue pour certains, pour moi, elle n'est pas que scientifique. Elle est politique et elle est scientifique. Mais je dirais qu'il faut énormément de prudence. Parce que les conséquences au niveau de la confiance entre le public et l'État, notamment dans un contexte où il y a déjà tellement de défiance par rapport au vaccin, demandent énormément de prudence. Donc je demande de la justesse et le courage de la transparence, ça veut dire aussi un travail de pédagogie, comme on le fait à France Inter, quand on écoute certaines émissions comme La Tête au Carré, où on nous apporte de la science,
de la
lisibilité. Vous voyez, ce qui manque, c'est la lisibilité. Et encore une fois, on ne fait pas confiance aujourd'hui, c'est la Terre au Carré, effectivement, on ne fait pas confiance à la société dans sa capacité d'intégrer ces questions. Un dernier point, parce qu'on est sur France Inter, regardez dans les écoles l'objet intéressant.
Et qu'il faut rendre l'antenne, malheureusement,
oui,
Emmanuel.
Mais regardez l'intérêt aujourd'hui dans les écoles d'aborder ces questions. Ça peut être très très formateur. C'est-à-dire que vous avez des enjeux aujourd'hui de démocratie concrète que les gens vivent au terrain, sur le terrain, en concret, en direct, et qui peut amplifier notre vie démocratique. Et tout ça, on le met de côté comme si c'était pas important.
Et la preuve, elle est là dans ce livre que vous avez dirigé, Emmanuel Hirsch, et qui est absolument passionnant. Pandémie 2020, c'est publié aux éditions du CERF. On aurait pu prolonger cette discussion et ce débat avec vous encore longtemps, bien longtemps. Et j'espère, Emmanuel Hirsch, que vous reviendrez dans le grand face-à-face. Merci infiniment. Merci. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé l'émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Nicolas Delmas. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques. À suivre sur Inter, les secrets d'info de Jacques Monin après MeToo. Comment les partis politiques gèrent-ils les affaires de harcèlement sexuel?